Bonjour à vous tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous découvrons la vie de Bartholdi, le père de la Statue de la Liberté, entre autres. Nous apprenons comment sont faites les grilles de mots fléchés de l'été et puis nous rencontrons Sœur Bénédicte qui a des documents remontant au Moyen-Âge et qui veut contacter les descendants de la famille à laquelle ils appartiennent. Mais avant tout cela, place à l'actu de ce jeudi 20 juin. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Leternier, bonjour à tous.
On repasse par Toulouse ce midi après l'orage très impressionnant d'hier soir.
Après Rhône-Alpes samedi dernier, Toulouse a vécu quelques minutes de frayeur avec du vent, de la pluie et de la grêle. Il y a des dégâts matériels mais pas de blessés. Tout n'est pas encore rentré dans l'ordre ce matin. Le vent a soufflé très fort aussi dans le nord et en Franche-Comté.
Que reste-t-il des années Pompidou en cette date anniversaire de l'arrivée de Georges Pompidou à la présidence de la République il y a 50 ans ?
Emmanuel Macron semble se reconnaître en tout cas en Pompidou, Nicolas Ballu.
Ah, il se voit président moderne qui transforme son pays. Disons plus prosaïquement qu'il est dans les pas d'une certaine nostalgie Pompidou.
On va faire les soldes avant les soldes.
Les soldes d'été, c'est mercredi prochain. Mais les ventes privées, c'est très souvent et c'est en ce moment en l'occurrence. Et
l'équipe de France féminine de football va enfin connaître ce soir son adversaire pour son 8e de finale de la Coupe du Monde.
Dans tous les cas, on regardera. C'est dimanche soir au Havre et ce sera sur France Bleu.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Leternier, Denis Farouf sur France Bleu.
C'est du jamais vu depuis la tempête de 1999. Une rafale de vent à 137 km/h a été relevée sous les orages hier soir à Toulouse.
Certains se sont aventurés sur leur balcon pour enregistrer ce phénomène très impressionnant. Les pompiers ont été appelés des centaines de fois, des arbres sont à terre, des toitures endommagées, une ligne de métro a été inondée, un cinéma évacué.
À Cugnot, au sud-ouest de Toulouse, deux marronniers sont à terre et les jardins partagés ont pris de plein fouet les orages.
Marie-Ange constate avec des sanglots dans la voix.
Donc ils ont pris cher, oui, vraiment, ça a été bien saccagé. Et il n'y a plus de tomates, tout est au sol, plus de fraises, plus de tomates, salade, plus d'aubergines, plus de salades.
Plus rien, peut-être pas, mais quand même, ça a été sacrément saccagé.
Et on n'a pas pleuré, mais on n'était pas loin.
Surtout que, voilà, c'est ça. Et beaucoup d'années, parce que le temps que la parcelle soit donne et qu'elle... Oui, donc c'est beaucoup de travail. Mais bon, comme on va s'entraider, ça ira.
La circulation des trains et du métro de Toulouse était encore perturbée ce matin. Et plus de trains entre Toulouse et Pau et Toulouse, la Tour de Carole, dans les Pyrénées-Orientales.
Une mini-tornade a également frappé hier soir la région de Cambrai et la Haute-Saône.
Une quarantaine de maisons ont été touchées au total dans la région Nord-Pas-de-Calais. Des toitures arrachées, des antennes de télé cassées, des poteaux électriques endommagés et une pointe de clocher d'église qui penche désormais ce matin à Biastre, à l'est de Cambrai.
En Haute-Saône, la flèche du clocher de Grès-la-Ville est tombée à la suite de la tornade.
Oui, là aussi, des toitures et des arbres ont été arrachés.
Deux surveillants ont été agressés ce matin au centre pénitentiaire du Havre.
Par un détenu de 25 ans, condamné pour des faits de terrorisme, il a frappé les deux surveillants avec un pied de la table de cellule. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.
Des nouvelles d'EDF en deux temps avec l'EPR de Flamanville et l'avenir de la société.
L'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF la réparation de 8 soudures défectueuses de l'EPR de Flamanville dans la Manche que l'électricien avait proposé de repousser après la mise en service du réacteur nucléaire. Cela va donc encore décaler la mise en service du réacteur.
EDF sera-t-elle divisée en deux ? La direction a présenté ce matin au syndicat ses pistes pour une refonte du groupe en profondeur.
L'électricien public se débat avec une dette de 33 milliards d'euros et doit faire face à un investissement de près de 100 milliards pour son parc nucléaire. Le projet de refonte s'appelle Hercule.
Deux jours après une grève très suivie à Radio France pour contester un nouveau plan d'économie de 60 millions d'euros d'ici à 2022, le ministre de la Culture a confirmé la réforme de l'audiovisuel public ce matin sur nos antennes.
Elle sera présentée au mois d'octobre pour une application l'année prochaine, avec pour Radio France un plan de départ volontaire et une confiance renouvelée à la présidente Sybille Veil. Franck Riester, ce matin sur France Inter.
On demande à tous de faire des efforts en matière de rétablissement de nos comptes publics. Mais ces efforts ont des limites, et ces limites, c'est l'ambition que nous avons pour l'audiovisuel public. Bien sûr qu'il faut des moyens quand on a de l'ambition. Et aujourd'hui, on estime que les moyens de l'audiovisuel public sont très importants et qu'ils pourraient être beaucoup plus encore efficaces qu'ils ne le sont aujourd'hui si on était encore mieux organisé. C'est un effort que je ne sous-estime pas, mais je pense que c'est un effort qui est tout à fait acceptable, en tout cas possible pour l'audiovisuel public et pour Radio France en particulier. Ça sera un plan de départ volontaire. Moi, je fais toute confiance à Sybille Veil travailler à son équipe pour, avec les équipes de Radio France, de pouvoir définir comment, à quel rythme les choses se mettent en place. Nous mettrons, nous accompagnerons les travaux, notamment de Radio France, que la fin des travaux de la maison de la radio n'impacte pas le budget de Radio France tel qu'il est prévu jusqu'à l'horizon 2022, pour que cet exceptionnel investissement n'impacte pas le fonctionnement de Radio France.
Donc pas pour accompagner le plan social.
Pas pour accompagner le plan social.
Le ministre de la Culture à propos des économies demandées à Radio France.
Il y a 50 ans, le 20 juin 1969, Georges Pompidou devenait président de la République.
Pompidou, une définition française de la modernité qui pensait à la fois vieille France et nouvelle France, a dit Emmanuel Macron. Voyons avec vous, Nicolas Ballu, ce que représente aujourd'hui Georges Pompidou, ce qu'il a laissé en héritage.
Mon héritage, d'abord, c'est un sentiment. C'est vrai, il y a une forme de nostalgie. Les années Pompidou, c'est la France qui va bien. Écoutez ce que le président de l'époque disait en 1972.
Il vous arrive, comme à moi, en ouvrant le journal ou en tournant le bouton du poste, d'apprendre que tout va mal. En vérité, qui le croit réellement ?
Et qui le croit réellement aujourd'hui. Ce sont des années de croissance économique, c'est une France industrielle, la France de la modernité, celle de l'Airbus, des premières décisions sur le TGV, l'espace. C'est la France d'après 68, la libéralisation des mœurs et d'ouverture culturelle. Pourtant, c'est une France qui reste encore conservatrice, ce que représente parfaitement Georges Pompidou, qui est aussi un terrien, un catholique pratiquant. Une France, il représente aussi une force de l'ordre. En fait, la France, une France de l'ordre.
France
voilà,
de l'ordre.
Ouais, c'est ça. Ouais. Politiquement, c'est à la fois le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas et son projet de nouvelle société et le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, surnommé Raymond Lamatraque.
Donc Georges Pompidou n'était pas vraiment un réformiste ou un progressiste ?
Alors posez-lui la question, voilà ce qu'il va vous répondre.
Il faut être extrêmement prétentieux pour se poser en réformateur. Il faut être bien modeste pour se croire conservateur. Et le jugement en la matière est bien difficile.
Mais pourtant, on est déjà sorti des années de Gaulle.
Je ne reconnais à personne le droit de critiquer cette politique au nom du général de Gaulle. Le général de Gaulle n'appartient qu'à lui-même.
Voilà, lui c'est lui, moi c'est moi. Alors voilà quand même deux sacrées pierres dans le jardin de tous ceux qui se réclament du réformisme ou qui se disent réformateurs ou alors qui se disent gaullistes.
Et pourtant aujourd'hui les politiques s'emparent de Georges Pompidou et particulièrement Emmanuel Macron.
Eh oui, le chef de l'État hier n'a pas manqué de louer le modernisme de Pompidou. Avant de préciser, le modernisme de cette France-là, c'est une histoire de progrès. C'est une France qui sait prendre des risques et l'assumer. Ça c'est un discours macronien typique. On aura également vu que pendant la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il était le président de l'ordre. On voyait Macron en Giscard, il se voit beaucoup en Pompidou.
Georges Pompidou, président de la République il y a 50 ans aujourd'hui. Merci Nicolas Ballu.
Tous donneur, tous receveur, toutes les antennes de France Bleu se mobilisent avec cette journée spéciale don d'organes.
Ce sont souvent des témoignages qui nous font prendre conscience qu'un geste peut sauver une vie. Écoutez cet habitant de Jouer-les-Tours. Pascal, greffé du cœur il y a 10 ans maintenant.
En 2009, au cours d'un congrès d'ostéopathie en Angleterre, j'ai fait une crise cardiaque massive. J'ai failli mourir, j'étais rattrapé vraiment à la limite. J'ai terminé avec un dispositif d'assistance ventriculaire gauche implanté, c'est-à-dire en gros une turbine qui fait circuler le sang à la place du cœur. En avril, j'ai été placé sur liste normale, on va dire, d'attente de greffe. Puis ensuite, eh bien, j'ai fait une septicémie et j'ai été greffé en urgence.
Et justement, là, maintenant, ça va faire presque 10 ans. Comment on vit avec cette greffe?
Très bien, merci. Non, très bien, véritablement très bien. La vie qui continue, il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux. On ne peut pas se plaindre. Pourquoi se plaindre, d'ailleurs? Pourquoi même imaginer qu'on est porteur d'un truc étranger? Non, pas du tout. On nous a donné effectivement une nouvelle chance de vie avec un nouveau cœur. Et bien voilà, ce nouveau cœur, c'est le mien. J'en prends soin. C'est la meilleure façon de rendre hommage aux donneurs et à leur famille.
Arnaud Rosac de France Bleu Touraine a rencontré Pascal Rivière. Jouer-les-Tours, près de Tours.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est une visite dans un club de foot et ce sera dans la section féminine.
Oui.
Allez savoir pourquoi en pleine Coupe du Monde.
On se demande.
Le temps de faire les soldes qui ne sont pas les soldes officiels de l'été, elles débutent mercredi prochain, mais qui ressemblent franchement, honnêtement, à des soldes.
Les réductions sont partout, mais elles ne s'appellent pas soldes, ce sont des ventes privées avec des réductions réservées aux clients qui ont une carte de fidélité. Si vous n'avez pas de carte de fidélité, Frédéric,
oui,
vous entrez dans la boutique et on vous donne une carte de fidélité. Emeline Vin.
Janine a été prévenue par SMS de l'ouverture des ventes privées.
Armand Thierry et Toscane vous invitent à leur vente privée. 50% de magasin, voilà, top.
Elle fait partie des clientes du fichier de la marque ciblé pour les opérations commerciales. Ismaël, directrice de la boutique.
La cliente va avoir l'avantage d'avoir plus de choix au niveau des tailles, au niveau des modèles. Et elle va se sentir privilégiée puisque du coup, le but c'est vraiment que ce soit réservé à elle.
Mais si on flash sur un produit en promotion et qu'on n'a pas la carte...
Je vous offre la carte de fidélité. Comme vous devenez du coup une cliente de notre enseigne, vous aurez droit à la remise. C'est aussi un peu le but du jeu, hein, c'est de fidéliser, de recruter de nouvelles clientes.
Ces magasins voudraient que chaque client ait un compte pour qu'un maximum de gens reçoivent les SMS et emails promotionnels. En plus, créer son compte, c'est facile. Il suffit de quelques informations que Jérôme et sa maman Christelle ont données à beaucoup de magasins pour ne rien rater.
Quand on remplit le petit formulaire, en fin de compte, voilà, on reçoit les trucs automatiquement sur notre téléphone, c'est pratique.
Vous avez pas peur de ce qui est fait? Alors vous donnez quoi? Votre numéro de portable?
Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ma date de naissance?
Rien de méchant, évidemment, ça sert juste à mieux connaître les clients et donc à proposer des offres promotionnelles toujours plus attractives.
Emeline Vin a fait les soldes avant les soldes avec France Bleu Maine. On devrait faire des cartes de fidélité pour écouter Une Heure en France.
Ah, ce serait pas mal.
Il suffit de la réclamer. Hein.
Les derniers matchs de la Coupe du Monde féminine de football ont lieu aujourd'hui avant les huitièmes de finale.
À 18h, Pays-Bas, Canada à Reims, Cameroun, Nouvelle-Zélande à Montpellier. À 21h, Suède, États-Unis au Havre et Chili, Thaïlande à Rennes. C'est à l'issue de ces rencontres que l'équipe de France connaîtra enfin son adversaire pour son huitième de finale dimanche soir à 21h au Havre.
Les clubs de foot féminin profitent de cette Coupe du Monde évidemment pour ouvrir leurs portes et faire découvrir le football féminin.
C'est le cas au Genet d'Anglette, au Pays Basque, qui a une section féminine depuis 6 ans avec 85 licenciés. Vous avez suivi un entraînement pendant le mondial, Valérie Menu.
Vous avez vu, j'ouvre mon pied pour aller chercher. Voilà.
Elles sont 6 à écouter les conseils d'Alex Marcos, l'éducateur. Et parmi elles, il y a Héloïse, un peu timide, qui a traîné sa maman ici parce que...
On a regardé évidemment les filles jouer, les bleus. Et Héloïse a dit, j'aimerais bien faire du foot.
Le foot que la jeune Naya, 9 ans, pratique, elle déjà depuis des années, aux États-Unis où elle vit. Et là, pas besoin de Coupe du Monde pour découvrir le ballon rond, nous explique sa maman.
Les clubs sont beaucoup plus focalisés sur les filles que sur les garçons. Donc là-bas, ça s'en rend, quoi. Et l'équipe féminine américaine, c'est des stars là-bas. Elles font des films, des séries télé. Les petites, elles sont toutes avec leur maillot, elles regardent les matchs, bien avant la Coupe du Monde. Donc là, non, c'est pas pareil qu'ici. Moi, ici, j'ai un peu galéré au début. Je cherchais justement si elles pouvaient même les stages. Il n'y a pas autant que chez nous, quoi.
Et au Genet, Naya a trouvé crampon à son pied pour ses vacances d'été. Le club anglais, il s'est féminisé depuis 2013. Amélie, 9 ans, porte d'ailleurs le maillot jaune et vert depuis l'an dernier. Le foot, hein, c'est son truc.
Je voyais des sports motivés. J'aime pas comme la danse et puis. J'aime bien les footballeurs et les footballeuses.
Et Valentin aussi, il a 11 ans, il est venu accompagner sa sœur hier, ravi qu'elle se mette au foot en club et puisse jouer à peu près comme les garçons.
Oui, c'est la même règle, mais les filles jouent plus lentement, en passe, et du coup, quand on se d'action, elles réfléchissent un petit peu plus que les garçons quand même.
Et dans les jeunes catégories, filles et garçons jouent les mêmes championnats avec une jolie conséquence, relève Alex Marcos.
Le regard des garçons de leur âge change, parce que quand ils se font accrocher ou qu'ils perdent un match, au début, les garçons pleuraient. Maintenant, c'est pas le cas. Ils savent que quand ils vont jouer contre les filles, c'est une équipe de plus, quoi. Et c'est quelque chose de bien.
Et vous avez remarqué, Denis, on a tous les jours des réflexions tapées au coin du bon sens. Aujourd'hui, c'est ce jeune footballeur qui dit « Les filles réfléchissent un peu plus que les garçons quand même ».
Il dit aussi qu'elles jouent un peu plus lentement.
Oh, d'accord.
Merci pour cet entraînement de foot, Valérie Menu de France Bleu, Pays Basque.
L'arme la plus célèbre de l'histoire de l'art dont on a parlé récemment dans Une Heure en France a été vendue. Plus de 160 000 euros hier aux enchères. C'est le revolver qui aurait servi à Van Gogh pour se suicider en 1890, retrouvé dans les années 60 par un agriculteur de l'Oise.
160 000 euros, c'est 3 fois l'estimation de départ, mais c'est loin du prix d'un autre revolver, le Faucheux, avec lequel Verlaine avait tenté de tuer Rimbaud en 1873. On en avait parlé aussi
dans Une Heure en France. Oui.
Il est parti, lui, à 435 000 euros il y a quelques années.
Allez, on va à Colmar dans un instant à la rencontre de Bartholdi, l'auteur du Lion de Belfort et de la Statue de la Liberté.
Et puis en Bretagne, avec une religieuse qui a des documents appartenant à une famille des Pyrénées-Orientales. Mmh. Et puis on prépare aussi l'été, non ?
Ah oui ?
Avec la fabrication des mots fléchés en 5 lettres, Frédéric. Mmh. Le programme qui arrive.
Météo ?
Vous êtes très forte.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.